RFI 14h à Paris midi en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour RFI midi, une demi-heure d'information. Cette attaque russe massive tôt ce matin sur Kiev, attaque qui est intervenue à l'aube avant que la Russie et l'Ukraine n'échangent de nouveaux prisonniers. 307 personnes de chaque camp vont pouvoir retrouver les leurs. Aux États-Unis, Donald Trump veut quadrupler la production d'énergie nucléaire d'ici 25 ans, notamment pour pouvoir alimenter des data centers nécessaires au développement de l'intelligence artificielle, particulièrement énergivore. Les autorités turques se mobilisent face au déclin démographique que connaît le pays. Le président veut que cette décennie soit celle de la famille.
RFI Midi.
À suivre également dans RFI Midi, le journal des sports. Et puis notre invité, le journaliste Gazaoui Rami Abou Jamous, nous parlera de ses conditions de vie et de travail alors que la guerre dure depuis un an et demi dans l'enclave palestinienne et que les sociétés de journalistes de grands médias français demandent à ce que leurs collaborateurs sur place puissent être évacués et mis hors de danger.
RFI à Paris, 89 FM.
Mais d'abord, direction Cannes, où le 78e festival s'achève ce soir et où l'on retrouve notre envoyée spéciale, Sophie Torlotin. Sophie, les prix seront donc remis en fin de journée, mais actuellement, c'est une grosse panne d'électricité qui vient perturber cette dernière journée. Depuis 10 heures, toute une partie du département est concernée par cette panne et Cannes fait donc partie des communes touchées.
Et oui, hein, le noir sur l'écran est tombé vers 10h ce matin. Les projections des films de la compétition, prévues toute la journée pour les festivaliers désirant les rattraper, ont été brièvement interrompues, mais ont finalement pu reprendre, car le palais des festivals a basculé sur son groupe électrogène de secours qui dispose d'une autonomie de 24 heures. La cérémonie de clôture se tiendra donc dans des conditions normales, assure la direction du festival de cinéma. Les commerçants cannois n'ont pas cette chance, ils se tiennent sur le seuil de leur boutique plongée dans l'obscurité. Seules les transactions en espèces sont autorisées. Par ce beau soleil, les badauds en profitent pour aller à la plage. Ambiance plus surréaliste que digne d'un film apocalyptique donc. Mais la situation affecte d'autres communes du département. Pendant que les équipes du réseau de transport d'électricité s'activent pour résoudre l'incident à l'origine de la panne, un incendie, vraisemblablement d'origine criminelle selon la gendarmerie, a eu lieu cette nuit sur un poste de haute tension et on ne sait toujours pas quand le courant pourra être rétabli.
Sophie Torlotin en direct de Cannes et on vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour parler des prix déjà remis en marche du festival comme la Queer Palm ou encore l'œil d'or du meilleur documentaire. RFI 15h03 à Kiev et Moscou, c'est un échange de prisonniers record. 1000 Ukrainiens contre 1000 Russes, le plus grand échange de prisonniers depuis le début de la guerre il y a plus de 3 ans. La Russie et l'Ukraine ont donc commencé à libérer des soldats et des civils détenus hier. Bonjour Julien Chavanne.
Bonjour.
Et un nouvel échange de prisonniers a eu lieu ce matin.
Oui, plus de 600 libérations ces dernières heures. Sur des photos publiées par le compte X de Volodymyr Zelensky, on voit une partie des 307 Ukrainiens libérés, drapeau ukrainien sur le dos, amaigris, en larmes. Au moment de retrouver leur famille, ils descendent des bus qui les ont amenés depuis la Russie. Au total, vous le disiez, 1000 prisonniers ukrainiens contre 1000 prisonniers russes doivent être échangés au total selon cet accord entre Kiev et Moscou. Donald Trump s'en est félicité le premier. C'est le seul résultat concret pour l'instant des discussions qui se sont tenues en Turquie la semaine dernière entre des représentants des deux pays.
Car comme à chaque échange, Julien, les combats, eux, continuent.
Oui, aucun cessez-le-feu n'est en vue. Ce samedi matin, une attaque massive de drones et de missiles russes sur Kiev a fait au moins 15 blessés. Des explosions ont résonné toute la nuit dans la capitale. Des incendies, des chutes de débris ont frappé des immeubles dans plusieurs quartiers de la ville. Seules des sanctions supplémentaires ciblant des secteurs clés de l'économie russe forceront Moscou à cesser le feu, a prévenu ce matin le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Julien Chavanne, en Allemagne, le bilan de l'attaque au couteau à la gare de Hambourg monte à 18 blessés. La suspecte de nationalité allemande est toujours en garde à vue. Elle devrait être présentée à un juge ce samedi. Elle est soupçonnée d'avoir frappé des voyageurs sur un quai bondé de cette gare. Les motifs de son geste restent à déterminer. Relancer le nucléaire civil américain, c'est le nouvel objectif de Donald Trump. Si les États-Unis sont la première puissance nucléaire civile mondiale, la petite centaine de réacteurs opérationnels que compte le pays se fait vieux. Leur âge moyen atteint désormais 42 ans. Bonjour Elisa Robuchon.
Bonjour.
Hier, le président américain a donc signé 4 décrets avec une ambition, quadrupler la production d'énergie nucléaire dans les 25 prochaines années.
Le temps du nucléaire est venu, a déclaré Donald Trump, et il a mis ses paroles à exécution. Les décrets signés accélèrent les essais de réacteurs et facilitent leur création. Donald Trump prévoit aussi de doper l'extraction et l'enrichissement d'uranium. Enfin, l'examen d'une demande de construction d'un nouveau réacteur ne devra pas dépasser 18 mois et la commission de réglementation nucléaire sera réformée. Alors, l'objectif de ces décrets, c'est de gagner le duel de l'intelligence artificielle avec la Chine. Selon le ministre de l'Intérieur Doug Burgum, une technologie très énergivore en électricité. Mais ces décrets ne font pas l'unanimité. Grégory Jasko, ancien directeur de la commission de réglementation nucléaire, les a qualifiés de guillotine pour le système de sécurité nucléaire de la nation. Donald Trump promet, lui, des procédures très rapides et très sûres. Les premiers tests et déploiements de réacteurs nucléaires pourraient avoir lieu d'ici janvier 2029.
Elisa Robuchon. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio exprime sa préoccupation après l'arrestation de Juan Pablo Guanipa, un important dirigeant de l'opposition vénézuélienne, proche de Maria Corina Machado. L'homme a été interpellé avec plus de 70 personnes, tous accusés de vouloir conspirer contre les élections législatives et régionales de demain dimanche que boycotte l'opposition. La Syrie salue la levée formelle des sanctions américaines. Hier, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a indiqué que son département mettait en œuvre des autorisations pour encourager de nouveaux investissements dans le pays. Donald Trump avait créé la surprise en annonçant lors d'une visite à Riyad le 13 mai la levée de ces sanctions, disant vouloir donner une chance aux nouvelles autorités de Damas. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan avait baptisé 2025 l'année de la famille. Le pays a vu son taux de natalité chuter très rapidement ces dernières années, au point de tomber à 1,5 enfants par femme début 2025, bien en deçà du taux de renouvellement des générations. Voyant ces statistiques continuer à chuter, le président turc a donc surenchéri hier, déclarant que les autorités se mobiliseraient pour la décennie de la famille et de la population. À Ankara, la correspondance de Céline Pierre Magnani.
1,48. C'est une chute spectaculaire du taux de natalité qu'enregistre la Turquie ces dernières années. Après avoir annoncé une série de mesures d'incitation à la procréation en janvier, le président Recep Tayyip Erdogan est revenu à la charge.
Le taux de fécondité de la Turquie est tombé à 1,48 pour la première fois de notre histoire. C'est un désastre. Nous mettons en œuvre des politiques très importantes qui encourageront le mariage et la procréation conformément à notre appel à avoir au moins 3 enfants.
Et quand il aborde les causes probables du phénomène, il accuse une nouvelle fois le mouvement LGBT+ d'être responsable.
Ce mouvement s'est littéralement transformé en fascisme. Je tiens à dire que nous ne tolérerons aucune idéologie qui déclare la guerre à la famille et aucune tyrannie qui nie la nature des êtres humains.
Le président Erdogan a enfin balayé l'argument économique d'un revers de main et a affirmé que la perte du pouvoir d'achat des Turcs n'avait aucun impact sur la chute de la natalité dans son pays. Céline Pierre Magnani, Ankara, RFI.
En Australie, le bilan des inondations porté à 5 morts, 50 000 personnes restent piégées ce samedi par les eaux qui ont commencé à se retirer des crues qui touchent l'est du pays, la Nouvelle-Galles du Sud, à quelques 400 km de Sydney. En France, les citoyens invités à compter les oiseaux ce week-end, un grand comptage national lancé par la Ligue de protection des oiseaux qui permet de collecter massivement des données qui permettront par la suite aux scientifiques de suivre l'état de santé de ces populations d'oiseaux. Au commun, leur effectif a baissé de 41% ces 10 dernières années, un déclin lié à la destruction globale des écosystèmes, à l'utilisation des pesticides, mais pas seulement. Marjorie Poitvin est l'animatrice de l'Observatoire des oiseaux des jardins à la LPO.
Il faut savoir qu'en cette période, les oiseaux sont 100% insectivores. Ils nourrissent leurs jeunes avec des insectes. Et malheureusement, depuis bien plus de 10 ans maintenant, les insectes, la production d'insectes, on va dire, chute dramatiquement à cause de l'utilisation massive, notamment de pesticides, mais pas que. Il y a aussi la dégradation des habitats. Et du coup, les oiseaux étant 100% insectivores en cette période, ils souffrent de cette pénurie d'insectes pour nourrir leurs jeunes, ce qui entraîne, en plus d'autres facteurs, la disparition de certaines espèces d'oiseaux, ou du moins le déclin de certaines espèces d'oiseaux qu'on pouvait voir plutôt fréquemment dans les jardins il y a 20, 30 ou 40 ans. Et si on élargit ce constat au niveau européen, c'est aussi le cas. Alors effectivement, il peut y avoir des variables en fonction de certaines espèces. Voilà, on observe des déclins un petit peu partout en Europe, de par la disparition des ressources alimentaires et aussi, il faut pas l'oublier, la disparition de leurs habitats, parce que les oiseaux ont de plus en plus de mal à trouver d'endroits ou nicher ou se reproduire. Donc malheureusement, voilà, c'est un constat global.
Des propos recueillis par Juliette Pietraszewski, RFI, 14h11 à Paris. Tout de suite, place au sport. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour.
Et on commence par du football, soir de fête ce soir donc au Stade de France où la finale de la Coupe de France met face à face le Paris Saint-Germain et Reims, deux équipes pour qui ce trophée n'est sans doute pas la priorité du moment.
Bah oui, clairement, si vous demandez aux joueurs des deux camps ce qui les motive réellement cette fin mai, la réponse ce sera pas forcément la Coupe, en tout cas pour les Parisiens. Pas celle-là, c'est celle aux grandes oreilles, évidemment, la Ligue des Champions qu'ils veulent mettre dans la vitrine du club. Et pour ça, c'est à Munich qu'il faudra aller samedi prochain. Quant aux Rémois, la Coupe de France ne les consolera pas s'ils doivent descendre en Ligue 2, une perspective encore crédible avant leur match de barrage retour contre Metz jeudi. Mais leur gardien, Yvan Diouf, sait que les finales de Coupe sont des moments précieux dans une carrière. Il souhaite donc aussi profiter de l'instant présent.
C'est quelque chose qui arrive très rarement. Donc même si ça arrive entre deux confrontations importantes, on se doit aussi de profiter du moment, parce que c'est quelque chose de rare dont on a travaillé pendant pratiquement toute la saison pour arriver à ce stade-là. On n'a pas eu que des matchs faciles. Donc voilà, profiter du moment, et puis on est des compétiteurs, donc on a envie de gagner malgré tout. Voilà, on va essayer de faire de notre mieux, d'être ensemble pendant les 90 ou 120 minutes, et puis après ce match-là, on se reconcentrera sur Metz. Mais pour l'instant, on est sur ce match-là.
Yvan Diouf, le portier de Reims, avec Sofiane Amazian, au Stade de France ce soir pour cette finale de Coupe de France, à suivre dans nos éditions à partir de 19h, temps universel.
En Italie, le suspense aura duré jusqu'à la dernière journée en Serie A, mais ça y est, Naples a fini par être sacré champion hier.
Grâce à une victoire décisive sur Cagliari, 2-0. L'équipe d'Antonio Conte finit la saison avec un petit point d'avance sur l'Inter Milan. Vainqueur pour sa part à Côme sur le même score, 2-0. Les interistes, eux, qui pourraient facilement oublier cet échec samedi prochain s'ils remportent la Ligue des Champions aux dépens du PSG.
En attendant ce rendez-vous, c'est la finale féminine de la Ligue des Champions, c'est cet après-midi.
Oui, un duel à Lisbonne entre Barcelone et Arsenal. Les Catalanes, tenantes du titre et victorieuses de 3 des 4 dernières finales, partent ultra favorites face aux Gunners, dont l'unique titre européen remonte à 2007, mais le club anglais pourrait très bien s'inspirer de sa démonstration face aux expérimentés lyonnaises, balayées en demi-finale retour, pour tenter un nouvel exploit. Coup d'envoi de cette finale, 16h, temps universel.
Encore une finale, mais en rugby cette fois. Bordeaux-Bègle et Northampton se disputent la Coupe des Champions.
Oui, le club anglais l'a déjà gagné, hein, une fois en 2000. Le club français, jamais l'UBB, qui a réalisé l'exploit des quartiers Toulouse, tenant du titre en demi-finale, veut à son tour marquer l'histoire de la compétition. Encore faut-il ne pas couler à pic comme lors de la dernière finale jouée, celle du top 14 l'an passé, le championnat de France. Les Bordelais, rapidement dépassés, avaient pris un humiliant 59-3 de la part des Toulousains. Leçon parfaitement retenue, estime le demi de mêlée Maxime Lucu, qui explique comment éviter un nouveau naufrage.
Déjà dans l'approche du match, c'est analyser ce qui n'a pas été l'année dernière, ce que l'on a fait cet été, et notamment voilà depuis le début de la saison. Sur tous les petits détails, l'année dernière on a appris beaucoup de choses, notamment sur le fait de pas prendre de carton jaune sur les 20 premières minutes, de pas prendre des essais sur l'entame de match, parce que quand tu pars à deux essais à zéro au bout de 10 minutes, un quart d'heure, un carton jaune contre des équipes qui ont l'habitude de jouer ces matchs-là et ces rendez-vous-là, c'est impossible derrière de revenir, et en plus de ça on se délite aussi. Voilà, on a appris de tout ça notamment où il faut pas réitérer ce genre de choses.
Maxime Lucu à la charnière du 15 de Bordeaux-Bègles face aux Saints de Northampton. 13h45 TU à Cardiff au Pays de Galles où Lyon a manqué l'occasion largement hier de remporter la Challenge Cup, la seconde compétition de club. Le Loup s'est nettement incliné face aux Anglais de Bath 37-12.
Merci, c'était le journal des sports de Christophe Dirindian.
RFI Midi, Charlotte de Rouen.
Ils sont les yeux et les oreilles des médias français à Gaza. Car on le rappelle, aucun journaliste étranger ne peut se rendre dans l'enclave. Alors des journalistes palestiniens rapportent tous les jours l'ampleur des destructions, les morts et les déplacements de population depuis un an et demi de guerre. Sur notre antenne, vous entendez souvent les témoignages recueillis par Rami Al-Megari. Des journalistes en grand danger. Rami, par exemple, s'est fait tirer dessus alors qu'il rentrait de reportage en voiture. Alors dans une tribune, des sociétés de journalistes des grands médias français, dont la SDJ de RFI, appellent les autorités françaises à mettre tout en œuvre pour que ses collaborateurs et leurs proches soient évacués. On en parle ce midi avec vous, Rami Abou-Jamous. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste gazaoui, triple lauréat du prix des correspondants de guerre à Bayeux pour votre travail justement sur ce conflit. Racontez-nous d'abord, c'est quoi le quotidien aujourd'hui d'un journaliste à Gaza ?
Ben, c'est déjà le quotidien de tout citoyen palestinien qui vit à Gaza, qui vit sous les massacres, sous les boucheries, et en même temps qui fait son travail de journalisme. Le problème, c'est que en tant que citoyen, on est déjà surépuisé de ce qu'on est en train de vivre, d'un massacre à un autre, d'un déplacement à un autre, d'une famine à une autre. Ça s'arrête pas, et surtout dans des conditions de vie très difficiles. Moi, j'ai de la chance de retourner dans mon appart qui est toujours intact. J'ai été déplacé plusieurs fois, et pendant cette trêve-là, la dernière trêve, ou bien c'est cette feu qui a été violé par Netanyahou, j'ai pu rentrer chez moi. Il y avait juste quelques bombardements dans notre immeuble. J'ai dit quelques bombardements parce que malheureusement, la majorité des habitations de la bande de Gaza a été bombardée. Donc, un bâtiment où il y a 2-3 obus, c'est rien du tout. Ça devient quelque chose de privilège. Et donc, il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là, qui vivent toujours sous des tentes, sous des bâches, qui vivent dans des rues, avec des conditions de vie très 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 difficiles, et surtout avec le blocus hermétique qu'on est en train de vivre depuis 80 jours, où il n'y a plus rien qui rentre avec la malnutrition. Et en même temps, parler de tout ça en tant que journaliste n'est pas évident. Et surtout, non seulement on est en face d'une machine de guerre qui s'arrête pas, mais on est aussi devant une propagande médiatique et un génocide médiatique. On essaye depuis Gaza et depuis la Palestine, avec nos petites plumes, on essaye de parler de Gaza, on essaye de faire sortir la voix de Gaza, on essaye de transmettre les images de ce qui se passe à Gaza. Mais malheureusement, avec tout le danger qu'on a, vous le savez très bien, il y a plus de 200 journalistes qui ont été tués malheureusement. Et ces journalistes-là, non seulement ils étaient tués, mais ils ont été tués avec leur famille. Il y en a ceux aussi qui ont ciblé leur famille d'une façon directe, comme notre collègue Dahdour qui travaille pour Al Jazeera. Presque toute sa famille a été décimée, malheureusement. Donc, on sait très bien qu'on est une cible parce que justement, l'armée d'occupation veut commettre les crimes sans témoins. Ils pourront enterrer les témoins. Ils empêchent déjà les journalistes étrangers d'entrer dans la bande de Gaza. Et en même temps, les journalistes qui sont là, ils essayent de d'éteindre leurs caméras, leurs plumes et d'éteindre leur vie pour que personne ne témoigne.
Et alors vous, justement, est-ce que vous avez peur que votre travail mette en danger votre famille ?
Bien sûr, et c'était la pire décision pour moi, parce que j'en ai discuté avec mon épouse Sabah. Je lui ai dit, écoute Sabah, là apparemment on fait partie des gens qui sont ciblés, beaucoup plus que les autres, parce que c'est notre travail de journaliste, donc je préfère m'éloigner un peu de vous. Et comme ça, s'il m'arrive quelque chose, vous restez en vie. Et la réponse était immédiate. Non, soit on vit tous ensemble, soit on meurt tous ensemble. C'est la pire décision qu'il faut prendre pour un père de famille. Il sait très bien qu'il est en danger et qu'il sait que à cause de lui, il peut perdre la vie de sa famille, sa femme et ses enfants. Mais ça fait partie du risque qu'on est en train de faire. Ça fait partie de notre résistance. Notre résistance, c'est rester sur place, c'est rester en Palestine, rester à Gaza. Et en même temps, notre résistance, c'est aussi transmettre tous les crimes qui sont en train de se faire passer à Gaza et essayer de sortir cette voie de Gaza. Moi, je suis un peu chanceux parce que je suis parmi les rares journalistes qui parlent français. Donc, j'ai pu transmettre tout ce qui se passe à l'étranger avec mon petit niveau de français. Il y en a d'autres qui essayent de transmettre de ce qui se passe à l'étranger, mais malheureusement, ça marche pas. Déjà, parce qu'on est toujours sous blackout médiatique et surtout, on est devant une machine de guerre israélienne qui est médiatique, qui a la même équivalence que la guerre qu'on est en train de subir.
Vous collaborez avec plusieurs médias français, on vous entend régulièrement sur RFI notamment. Est-ce que vous souhaitez quitter Gaza?
Non,
c'est une question difficile.
Non, c'est pas une question difficile, c'est que ils m'ont proposé déjà parce que moi je collabore depuis longtemps avec tout ce qui est médias francophones et surtout médias français. Donc deuxième jour de la guerre, j'étais sollicité par le consulat s'il voulait sortir avec les listes d'évacuation qu'il faisait, parce que je collaborais aussi avec l'Institut français à Gaza. Et donc ma réponse tout de suite était non. Et jusqu'à présent, la dernière liste qui a été sortie récemment, il y a à peu près 115 personnes qui étaient évacuées de Gaza vers la France. Ils m'ont proposé d'être parmi cette liste-là et ma réponse est toujours là. Déjà, c'est ma façon en tant que citoyen de résister, parce que le vrai but de cette guerre-là, c'est de déplacer et déporter les 2,3 millions de personnes qui habitent à Gaza, ces Palestiniens qui vivent sur ce bout de terre. Et deuxièmement, en tant que journaliste, si je vais partir, qui va parler de tout ce qui se passe? Déjà, on a des difficultés de parler de tout ce qui se passe. On a des difficultés pour montrer tout ce qui se passe. On a des difficultés pour affronter cette machine de guerre qui est en face de nous. Si tout le monde va partir, personne ne va en parler de Gaza. Donc, je préfère rester. J'assume ce risque. J'assume cette responsabilité. Et j'espère que tout ça va venir bientôt et peut-être se rendre en France en vacances, voir mes amis et voir avec tous les amis avec qui je collabore, voir les amis aussi qui sont pas journalistes et surtout changer un peu d'air. Et mon fils Walid, il espère un jour aller en France parce qu'il m'entend parler français et parce qu'il a un petit jouet de la Tour Eiffel. Il me dit: papa, je vais aller à la Tour Eiffel et je vais manger dans le resto à la Tour Eiffel. J'espère qu'un jour on va rester vivant. On va être parmi les survivants de ce génocide et que je puisse réaliser le rêve de Walid et d'aller à la Tour Eiffel et avec tous nos amis en France.
Merci beaucoup Rami Abou-Jamous d'avoir été avec nous ce midi sur RFI.
Avec plaisir.
RFI Midi.
Direction les États-Unis à présent. Aux États-Unis, le terme crunchy mom a longtemps été associé à des mères démocrates, hippies, partisanes d'une vie plus naturelle pour leurs enfants. Mais plus récemment, un nouveau type de crunchy mom s'est apparu. Des chrétiennes conservatrices anti-vax en faveur de l'école à la maison. Des mères qui s'inscrivent dans la droite ligne du ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., connu notamment pour ses théories complotistes. Reportage dans le Michigan de Margot Gesto.
Jenny vit à Carlton, une petite ville de campagne à l'ouest de Détroit. Coiffeuse 2 jours par semaine, elle consacre le reste de son temps à sa fille de 2 ans, Faye, qui court cet après-midi dans la maison, Bible à la main. La jeune maman a décidé de ne pas vacciner son enfant, lit les ingrédients de tout ce qu'elle achète et se laisse guider par sa foi pour prendre ses décisions. Elle cite un verset qui l'inspire au quotidien.
Elle travaille avec dévouement, elle prend soin de sa famille, elle veille à ce que chacun soit bien habillé. Je pense que beaucoup de ses valeurs me poussent à servir ma famille.
Même son de cloche avec Ashley, mère de 3 enfants, qui se rend fréquemment au Community Center de Brighton, un grand centre catholique offrant de nombreuses activités où elle peut retrouver ses amis et laisser ses enfants jouer. Diagnostiquée à 21 ans de la maladie de Hashimoto, elle est convaincue que le système est responsable de la hausse des maladies.
6 Américains sur 10 souffrent d'une maladie chronique. La génération de mes enfants est la plus malade de l'histoire. Alors où allons-nous à partir de là? Je pense que RFK Junior, que je suis depuis longtemps, pose les bonnes questions. C'est son moment donné par Dieu et je crois qu'il va résoudre la crise sanitaire dans notre pays.
Martha de Northville a grandi dans une famille démocrate et athée. Aujourd'hui, elle a changé de bord. Ici, dans sa grande maison de campagne, elle fait école pour ses 5 enfants vifs d'esprit qui s'amusent à tous les étages. Pour elle, ce mouvement est plutôt un facteur d'unification.
Le mouvement Crunchy réunit en réalité libéraux et conservateurs car le pays est tellement divisé. J'espère que cela nous permet de trouver un terrain d'entente en réalisant que nous partageons des valeurs communes.
Si les Crunchy Moms ont foi en RFK Jr., le corps médical reste sceptique. Au DMC, l'hôpital de Détroit, Rachel Hone, pathologiste, pense que ces Crunchy Moms manquent d'informations.
Les vaccins sont la meilleure des préventions. J'ai peur de voir les progrès réalisés dans le domaine de la santé annulés à cause de personnes qui ne se font pas vacciner. Il faut qu'un certain pourcentage de la population soit vaccinée pour que ces vaccins fonctionnent. Donc, si de plus en plus de gens choisissent de ne pas se faire vacciner, de plus en plus de personnes vont tomber malades. C'est scientifique.
Selon le PEW Center, 31% des républicains affirment aujourd'hui que les vaccins sont plus dangereux que les maladies qu'ils étaient censés prévenir. En 2023, seulement 57% des républicains soutenaient l'idée de vacciner les enfants fréquentant les écoles publiques contre 79% en 2019. Margot Guichetot, RFI.
RFI Midi. RFI à Accra. 89.5 FM.
On en parlait un peu plus tôt dans le journal. Le 78e Festival de Cannes s'achève ce soir. Le jury, présidé par l'actrice Juliette Binoche, va se retirer dans une villa pour discuter des prix qui seront donc remis en fin de journée cette année. Aucun film n'est franchement donné favori, même si certains titres reviennent souvent dans les conversations. Certains ont en tout cas déjà été récompensés par des prix en marge du festival, Sophie Torlotin.
Certains prix gravitent en périphérie du Festival de Cannes, mais font parler d'eux. Depuis 15 ans, la Queer Palme récompense un film abordant des thématiques LGBTQIA+, comme des personnages trans, des questionnements de genre ou des relations homosexuelles.
Vas-y toi, pourquoi faire? Arrête ton blabla là. C'est bon, je sais ce que c'est de pas s'assumer.
En attendant peut-être une place au palmarès ce soir, la petite dernière d'Avia Herzi, le récit d'initiation d'une jeune femme lesbienne et musulmane, remporte la Queer Palme. Autre prix déjà décerné, l'œil d'or du meilleur documentaire attribué à Imago, premier film tchétchène projeté à la semaine de la critique. Le réalisateur Denis Oumar Pitsaev.
Il y a des gens en ce moment, que ce soit à l'Ukraine, que ce soit au Soudan, que ce soit à Gaza, qui n'ont pas de cette chance. Toutes les vies valent, que ce soit une vie palestinienne, que ce soit une vie tchétchène, israélienne. Il faut qu'on reste humain et qu'on parle avec notre cœur. Je vous aime. Merci encore.
À Cannes, les animaux aussi sont à la fête. Le Grand Prix de la Palme Dog 2025 récompense à titre posthume Pippa, l'un des deux acteurs canins du film Sirat projeté en compétition. L'actrice Jade Oukid lui rend hommage.
C'est ma petite chienne qui s'appelle Luba, qui est là, qui a été protagoniste avec moi dans le film et qui est décédée juste après le tournage. Pour moi, c'est un honneur d'être ici. Je voudrais vous remercier, Palme Dog et tout le monde. C'est très symbolique comme message qu'elle puisse avoir une reconnaissance. C'était une petite chaîne de cirque incroyable.
A lo mejor estará por ahí.
Vosotros vais à ir.
L'hallucinatoire et apocalyptique Sirat de l'espagnol Oliver Lax figure parmi les films les plus cités par les critiques comme devant figurer au palmarès, au moins autant qu'un simple accident de Jafar Panahi ou Sentimental Value de Joachim Trier.
Qui a obtenu la Palme d'Or ?
Au jury, présidé par Juliette Binoche, d'en décider à l'issue d'une journée ce samedi de délibération à huis clos. Le Congolais Diodo Amadi a aimé cette expérience inédite.
Je viens parfois sans savoir exactement ce que je vais regarder, même pas les noms du réalisateur, même pas les noms de l'équipe, parfois même pas les titres. Ce qui me passionne, c'est d'arriver justement sans a priori et d'être embarqué tout de suite dans une histoire que je n'attendais pas. Et traverser, comprendre, écouter, sentir, ressentir. ça fait partie des privilèges justement d'être jury pour découvrir tous ces types de films.
Verdict ce soir et un palmarès à suivre sur RFI à 18h, temps universel. Sophie Torlotin, Victor Hull, Cannes, RFI.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et Sophie le disait, vous retrouvez toute l'équipe à partir de 18h10, temps universel, 20h10 heure de Paris, pour retrouver tout le palmarès du Festival de Cannes. Restez avec nous dans un instant, Afrique Midi.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
Un poulet croustillant caramélisé, cacahuète, épices saté, naan, cathy rolls, mayonnaise, ail jalapenos et un peu de chutney. Des cuisines d'ailleurs qui vous collent au palais, à la peau. Certains chefs ne peuvent plus s'en passer et veulent partager les géniales saveurs d'ailleurs tout en étant ici. Récits et rencontres ce dimanche à 13h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence de Navi sur RFI.